Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Cini.
18h, quasiment 40 minutes. C'est effectivement l'heure de défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec la bande. Cyprien Cini, oui. Céline Landreau et Laurent Tessier. Oui. L'info autrement jusqu'à 19h. Le menu, Cyprien.
Ce soir, on défait le bracelet électronique. Affaire Fillon, Balkany, Sarkozy, souvent évoqué. Concrètement, à quoi ça ressemble un bracelet électronique et comment ça marche ? On va tout vous expliquer. Au menu également, la très grande victoire du club de foot d'Arles, 22 à 1.
Oui, oui. Ils ont de très bons attaquants.
Très fort. La mairie qui vous offre votre électricité et le bruit des trous noirs. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et voici le son du jour.
Je sortais pour aller au portail, j'avais demandé 36 fois au juge d'élargir le périmètre pour que je puisse aller au portail quand ça sonne. Tout ça, c'est de la connerie.
Patrick Balkany, fâché avec son bracelet électronique qu'il a renvoyé en prison. Il saura s'il peut en sortir la semaine prochaine. François Fillon, qui se pourvoit en cassation hier pour éviter d'en porter un. Nicolas Sarkozy, qui a fait appel pour ne pas en porter non plus. En France aujourd'hui, 14 300 personnes ont un bracelet électronique. Alors, avec l'équipe dont défait le monde, on a choisi de s'intéresser de plus près à cet objet.
À quoi ressemble-t-il ? Comment fonctionne-t-il ? Est-ce que c'est lourd, étanche ? Et est-ce qu'on peut l'enlever de temps en temps ?
Pour tout savoir, on a contacté la magistrate Anne-Sophie Valac. C'est une ancienne JAP, juge d'application des peines, qui nous a décrit à quoi ressemble ce fameux bracelet.
Ça ressemble en fait à une grosse montre, placée le plus souvent à la cheville pour plus de discrétion. Avec une partie bracelet qui est en plastique assez épais et une partie qui ressemble à un gros cadran en plastique aussi qui contient un dispositif de connexion. Alors le bracelet est noir et le cadran est gris et qui est relié à distance à un boîtier qui est situé au domicile des personnes, dans le lieu en tout cas où ils doivent résider ou doivent rester dans certains horaires qui sont fixés par le juge.
Mais ce bracelet, on peut l'enlever ?
Bah, théoriquement, non.
Il n'est pas amovible. En fait, on ne peut pas vraiment arracher le bracelet, si je puis dire, qui est donc dans un plastique très épais. On ne peut pas le cisailler non plus. Mais je ne vais pas vous dire, je ne vais pas mentir en disant que ça n'arrive jamais. En fait, c'est le dispositif électronique qui est dans le boîtier, qui est l'équivalent du cadran, qui peut être endommagé et que ça constitue une alarme. C'est-à-dire qu'il n'est plus connecté au boîtier et c'est manquement à l'obligation de surveillance à ce moment-là.
Alors, quand il y a manquement à l'obligation de surveillance, il se passe quoi ?
Eh bien, si le détenu n'est pas chez lui à une heure où il devrait l'être, ça sonne.
Alors ça sonne dans une sorte de poste central dans lequel travaillent des surveillants pénitentiaires, donc qui en général, lorsqu'elles reçoivent une alerte, vont téléphoner à la personne qui porte le bracelet pour avoir ses explications sur l'alarme, pourquoi elle n'est pas rentrée à son domicile à l'heure à laquelle elle était censée rentrer. Le compte-rendu en fait de cet appel est transmis à la fois au service pénitentiaire d'insertion et de probation qui suit la personne et au juge de l'application des peines qui décidera des suites à donner à cet incident en fonction de sa gravité et de la situation de la personne.
Un exemple concret, vous êtes chez vous, ouais. Vous vous blessez, ouais. Là vous partez aux urgences, ouais. Du coup, et là ça sonne, on vous appelle, vous expliquez que vous avez dû filer aux urgences et là, il faudra bien penser à ramener les justificatifs des médecins.
Mais et comment on sait qu'on est sorti de chez soi parce que les logements n'ont pas tous la même taille,
hein ? Alors ça, c'est réglé au moment de l'installation du dispositif.
Le boîtier qui est situé au domicile de la personne, qui est fixe, qui est un peu comme une box, c'est un paramétrage finalement, qui est effectué par des agents de l'administration pénitentiaire qui viennent installer le dispositif au domicile de la personne qui est suivie pour qu'on sache à partir de quelle limite l'alarme se déclenchera.
Les limites, c'est les mêmes pour tout le monde ou c'est décidé au cas par cas ?
En général, c'est pas un sujet, c'est-à-dire que c'est dans le logement, un point c'est tout, et s'il y a des choses à déterminer, ça peut être vu avec le, et décidé par le juge de l'application des peines. Il y a peut-être un mètre de delta, mais a priori, c'est suffisamment précis pour qu'on sache si la personne est chez elle ou pas.
Et alors, petit détail, dans la baignoire, visiblement, parfois, eh ben ça marche pas. Donc quand on vous appelle, il faut sortir du bain pour répondre. Et l'électricité qui alimente le boîtier, qui sert de box, est à la charge du détenu.
Voilà, vous savez tout, tout, tout sur le bracelet électronique ce soir.
RTL, sous les radars.
Et on défait l'info passée sous les radars.
Et ce soir, un son passé complètement inaperçu et pourtant... Alors ça nous a vraiment, vraiment fascinés en préparant cette émission, Laurent.
Oui, on va aller dans l'espace. La NASA a partagé une bande-son exceptionnelle, celle de la mélodie émise par un trou noir, un vaste et monstrueux gouffre. Pour faire simple, il est très loin de nous, à près de 250 millions d'années-lumière de la Terre. Écoutez, c'est hallucinant. Alors on a vraiment l'impression que c'est la bande son d'un film d'horreur.
Mais comment c'est possible? Je pensais que tout était silencieux dans l'espace, qu'il n'y avait pas de son.
Oui, normalement, mais on va faire un petit cours de science.
Ah.
Ce trou noir se trouve dans une constellation qui est composée de centaines voire de milliers de galaxies avec du gaz chaud. Ces gaz eh bien, permettent aux ondes émises par le trou noir de se déplacer et donc de nous faire entendre ce bruit stressant. En 2003, les chercheurs de la NASA avaient réussi à les traduire en notes de musique, mais c'était inaudible pour l'oreille humaine. Et là, on vient de réussir à augmenter de plusieurs milliards de fois la fréquence des ondes pour ce résultat vraiment angoissant, le hurlement d'un trou noir.
Alors, parce que vous faites l'intéressant, Laurent, et que vous jouez au prof de science, vous avez dit tout
oula,
à l'heure...
Attention.
Un trou noir, pour faire simple, c'est un gouffre. Mais c'est quoi un trou noir?
C'est un gouffre, un monstrueux gouffre.
Et ça inspire tout, hein, quand même.
Parce que pour faire compliqué, ça reste un gouffre.
Ouais. Bah oui, mais c'est
et une année-lumière, pour un petit calcul simple, parce que j'ai parlé de 250 millions d'années-lumière, une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres.
Ça fait beaucoup de zéros, ça.
Ça fait beaucoup de zéros.
Mais c'est très loin. Il faut pas passer près du trou noir, parce que le trou noir aspire tout ce qui est autour, en fait. Et on sait pas dans quoi ça vous emmène, puisque personne n'est jamais rentré dans un trou noir.
Ah,
en tout cas, on n'est pas ressorti.
En même temps, on se balade rarement à côté d'un trou noir.
Très bonne explication de Cyprien. Hein. Voilà, là j'ai compris.
C'est un peu loin aussi.
Allez, petite pause, on continue de défaire le monde dans RTL Soir. Première info pour briller au dîner avec Marilyn Monroe.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h48, on défait toujours le monde dans RTL Soir. Et voici la première info. Pour briller tout à l'heure, autour de la table en famille, pour dîner.
Alors, malheureusement pour l'équipe dont défait le monde, le tableau de Marilyn est parti pour 195 millions de dollars.
Ouais, la cagnotte n'a pas fonctionné. Ouais,
on est passé à rien de l'avoir, ça s'est joué à pas grand-chose.
Quelques centaines de dollars.
Centaines d'euros. Bref, oublions. Et Laurent, hein, vous nous faites briller avec Marilyn, du coup.
Voilà, introduction. Marilyn Monroe qui était complètement accro au téléphone. Elle pouvait passer des heures à discuter avec ses amis à n'importe quel moment, de jour comme de nuit. Alors, sauf qu'à l'époque, vous le savez, le téléphone sans fil n'existait pas, donc vous deviez rester à un endroit pour passer vos appels. Alors, l'actrice avait fait rallonger tous les fils de ses appareils pour se balader dans sa maison pendant qu'elle téléphonait. C'est malin. Alors, une passion qui l'aura accompagnée jusqu'au bout, puisque lorsque Marilyn Monroe a été retrouvée sans vie dans la nuit du 4 au 5 août 1962, elle avait la main posée sur le téléphone.
Très très bonne anecdote. Bonne info pour briller au dîner. Vous défiez Céline en quelque sorte. Elle va devoir se mesurer.
Comme
à vous
tous les soirs, mais on connaît l'issue finale.
Julien Cellier, Cyprien Cini ont défait le monde.
En attendant, Céline va choisir soit le winner, soit le loser du jour. Alors ce soir, ça gagne. Et pas qu'un peu.
Ouais, ce soir, un winner, un grand gagnant peut-être. Un peu trop grand d'ailleurs.
Oui, là c'est Arles, club de foot de Régional 2. On parle donc de la 7e division et qui fait les gros titres de la presse sportive après sa victoire, que dis-je, large victoire dimanche contre Septem.
22 buts à 1.
Eh ouais, et on parle de foot, hein. 22 buts à 1 donc pour les Arlésiens.
S'agissait-il d'un match captivant? Je ne dis pas un grand match. Moi, ma réponse, c'est oui, c'était un match captivant.
Ah bah oui, ça, il y avait du spectacle. Hein. Inattendu en plus, parce qu'au match aller...
En janvier-septem, c'était imposé 4-1.
Oui, donc l'équipe qui avait pris 4-1 à l'aller a gagné 22-1 au match retour. Et tout ça alors que...
Arles se bat avec Martigues pour être promu en Régional 1. Et avant cette rencontre au classement, Arlésiens et Martego sont à égalité de points. Et donc, le critère qui va les départager, c'est la différence de but générale.
Voilà, donc la montée en Régional 1 devrait se jouer à la différence de but. Et là, d'un coup d'un seul, pour Arles, ça fait plus 21. Alors, c'est pas mal, hein. Évidemment,
fou,
mettez-vous à la place du club de Martigues quand ils ont vu le score.
Ah, j'ai des doutes.
Ah bah oui, des gros doutes même. Au point de demander une enquête à la Ligue pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un match arrangé, soupçon de match truqué en Régional 2. L'affaire devient internationale puisque même la Gazzetta dello Sport, la référence de la presse sportive italienne, en parle. Alors de notre côté... Eh bien, on a enquêté aussi.
L'inspecteur Gadget.
Exactement. On ne recule devant rien et on a voulu donner la parole à la défense. On a passé un petit coup de fil au président de la C Arles, Olivier Reuilly. Il était dans les tribunes dimanche et il le reconnaît.
C'est vrai que c'est un score qui peut surprendre.
Ah bah oui, ça peut surprendre, mais il a des explications.
22 buts, c'est parce qu'il n'y avait personne en face, très honnêtement. Il n'y avait pas d'équipe en face. Ils sont arrivés à 14h30 pour un match qui débute à 15h. Ils n'avaient pas de gardien titulaire. Ils sont venus avec un joueur de champ. On lui a prêté des gants pour qu'il puisse jouer. Le début de la rencontre s'est plutôt très bien passé. Ils ont même ouvert le score. Notre équipe a continué à jouer. Il s'avère qu'en face, le gardien, qui n'était pas un gardien, a commencé à prendre un but, deux buts, trois buts. C'est vrai que ça s'est un peu enchaîné.
Un peu enchaîné, jusqu'à 22 buts quand même, on le rappelle. Et d'ailleurs, même lui trouve que ce score, bah, c'est presque trop.
Croyez-vous que si on avait voulu tricher, on aurait fait 22-1. Je pense qu'on se serait arrêté bien avant.
Hey, malin. Et du côté de Septem-les-Vallons, on se défend aussi de tout arrangement. Le club est en grande difficulté. Les principaux joueurs tellement démobilisés qu'ils auraient refusé de faire les 90 km qui séparent les deux villes pour aller jouer. Bon, il reste une journée de championnat dans cette poule C. Ce qui est sûr, c'est que les scores vont être très scrutés.
Ah là là, j'adore quand vous refaites le match, chère Céline. Incroyable. 22 buts à 1. On aura peut-être signé les attaquants de Arles à l'OM. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ouais. On peut peut-être signer à Septem, du coup, qui a perdu 22 heures. Oui, parce que je pense qu'on a le niveau là.
On a le niveau pour jouer face à Arles, effectivement.
C'est un peu prétentieux, les garçons. C'est Régional 2 quand même.
Bah, ouais, mais bon, 22-1, non, 22-1, on y va.
Vous avez jamais vu Cyprien sur un terrain, ouais. Moi. C'est un numéro 10 de grand talent.
Il est fragile.
Merci, c'est bien aimable.
Oui, il a les chevilles. Ouais. C'est pour ça qu'il n'a pas fait carrière d'ailleurs. Il a des problèmes de chevilles. Sinon,
c'est classique.
Sinon, une petite pause et puis dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner avec la Royal Family. À tout de suite.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy. L'info pour briller dans On défait le monde.
18h55 minutes. On défait encore le monde pendant 5 minutes dans RTL Soir. Voici une nouvelle occasion de briller tout à l'heure au dîner.
On en parlait dans le journal de 18h. La Queen Elizabeth a raté le discours de la reine, remplacée au pied levé par son fils Charles. Formidable. Mais Céline, pendant ce discours, il y a une drôle de tradition chaque fois.
Oui, parce que pendant que tous ses collègues écoutaient le prince Charles aujourd'hui au Parlement, il y a un homme qui lui était privé de séance, retenu en otage à Buckingham Palace. Oui, James Morris, le vice-chamberlain, était le parlementaire britannique prisonnier tout le temps de la cérémonie au Palais Royal. Alors, a priori, pas dans des geôles, mais cette pratique, elle date de Charles Ier, qui avait, lui, des relations, disons, compliquées avec le Parlement, tellement compliquées qu'elles lui ont quand même coûté la vie en 1649. Donc depuis, eh bien, un parlementaire se constitue otage le temps du discours à Buckingham Palace pour éviter, en retour, que le souverain ne soit séquestré au Parlement.
C'est incroyable, cette histoire. Incroyable. Très, très bonne anecdote. C'est vrai que tout à l'heure, vous aviez une super info pour briller.
Mais ça sent la défaite.
Laurent, mais vous avez de la concurrence.
Non, c'est vraiment bien.
Ce soir, match nul.
Marche.
Allez, tous les soirs, vos idées les plus folles, vous nous les racontez juste avant 19h.
Vous trouvez l'électricité trop chère, c'est normal, mais il y a une municipalité qui a peut-être une solution, Laurent.
Oui, la commune de Ligron, dans la Sarthe, 500 habitants, le maire Philippe Bieu veut tout simplement offrir l'électricité à la population. Bonsoir, monsieur le maire.
Bonsoir à tous.
Comment comptez-vous vous y prendre ?
On a réfléchi parce que sur le territoire, il y avait plusieurs initiatives sur de l'énergie renouvelable, type éolien, ferme photovoltaïque, et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire sur notre commune ? Et on a identifié des bâtiments communaux qui pouvaient recevoir des panneaux photovoltaïques. Avec Enedis, on a regardé et on pouvait injecter donc cette électricité sur le réseau, puisqu'on a, il y a un transformateur très proche des bâtiments identifiés. Et on s'est dit, mais nous, notre collectivité étant toute petite, jamais on ne consommera toute cette électricité. Donc notre but n'est pas de revendre et de faire de l'argent, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc on s'est dit qu'une action qui serait intéressante, c'est de trouver le moyen de permettre à la population de consommer cette électricité et de la consommer gratuitement. Donc le bureau d'études qui nous aide nous a aussi un peu orienté sur le fait de constituer une association qui permettrait aux gens qui veulent consommer l'électricité d'adhérer à l'association. Puis une fois qu'on est adhérent de l'association, on peut consommer cette électricité verte. S'il reste du surplus à un instant T, Enedis rachète le peu d'électricité qui restera.
Alors justement, est-ce que ça va permettre de fournir une électricité à tous les habitants, ou ça va simplement baisser une partie de leur facture ? Comment vous allez faire ça ?
L'idée, c'est de venir diminuer la facture d'électricité de nos administrés lorsqu'ils vont consommer, donc en journée, toutes les kilowattheures qui seront produits par les équipements seront consommés par tous les adhérents à l'association.
Vous avez une idée déjà de l'économie que ça pourrait représenter pour chaque foyer ?
Alors sur l'année, on a fait une petite estimation, ça peut représenter en fonction des équipements des foyers, ça peut représenter entre 200 et 400 euros par an d'économie.
Et alors j'imagine que ça a un coût de poser tous ces panneaux solaires, qui paye ?
On a une subvention qui va nous être donnée par la région et puis le reste, eh bien, c'est la commune qui va financer. Et pour nous, c'est un peu un juste retour de ce que nos administrés payent en impôts locaux. Eh bien, nous, on va l'investir sur cette installation. Et puis, on remettra à disposition le mieux consommé.
Et l'objectif, c'est que ça soit mis en place à partir de quand, alors ?
Ce qui serait bien, c'est qu'en 2023, on va dire, dernier trimestre 2023, ce soit opérationnel.
On prendra des nouvelles, alors.
Ah, mais pas de souci. Nous, on bouge pas. Donc, on sera toujours là.
Merci, monsieur le maire. Bonne soirée.
Merci à vous. Bonne soirée.
Merci, monsieur le maire. Et merci à vous, les amis, dont Défait le Monde. On vous retrouve demain, 18h40, dans RTL Soir.
À demain.
De nouvelles aventures. À demain.